morning.
Good morning.
Good morning.
Yeah, good morning.
Whoa, good morning. And
good morning, Radio Premier.
Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui mercredi pour une nouvelle matinale sur Radio Prévert. Il est 9h50. Bonjour Manon.
Bonjour Stéphane.
Comment ça va Manon ce matin?
J'ai froid.
Ah bah avec ce temps, ça m'étonne pas, il fait un petit peu froid ce matin au réveil. Et la transition est toute faite et on va passer tout de suite à la météo. C'est l'heure de la météo en Saône-et-Loire sur Radio Prévert 105.9. Et on commence donc avec la météo de ce mercredi après-midi. On attend un beau soleil sur l'ensemble de la Saône-et-Loire. Seuls quelques nuages viendront s'interposer. Le froid qui s'est intensifié depuis quelques jours persiste. Météo France prévoit 7 à Mâcon, Louhans et au Creusot et 8 à Chalon, le maximum dans le département. Jeudi et vendredi, on conservera un temps similaire, sans grande évolution, du soleil et des nuages, mais prudence, il faudra s'attendre à de la brume. Les températures sont en nette baisse, elles seront comprises entre 2 et 4 degrés au maximum jeudi. Les deux jours suivants, c'est un week-end gris et pluvieux qui s'annonce, le mercure ne dépassera pas les 4 degrés. C'était la météo sur Radio Prévert 105.9.
Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Prévert 105.9.
Et on commence ce flash, on va parler musique. Les fans de Shakira vont être déçus. La chanteuse colombienne ne peut plus chanter en raison d'une hémorragie des cordes vocales. Elle est alors contrainte de reporter sa tournée européenne. Elle aurait dû débuter dès le 8 novembre en Allemagne avant de passer par Paris et de poursuivre notamment à Montpellier et Lyon. On poursuit également avec une page santé. Vous vous soignez sans doute avec des médicaments achetés en pharmacie non prescrits par votre médecin. C'est de l'automédication. Et à ce sujet, le magazine 60 millions de consommateurs dresse une liste noire des médicaments à éviter et qui peuvent être dangereux. Les médicaments pour le rhume, le mal de gorge ou encore les maux de tête sont mis en évidence. On peut citer l'Actifed rhume, le Dolirhume ou encore le Nurofen. Alors attention! Et pour terminer, nous sommes le 15 novembre et c'est la journée internationale du recyclage. Celle-ci a été créée en 1994 aux États-Unis. À l'origine, elle avait pour objectif d'informer le public sur l'utilité de consommer des produits fabriqués avec des matériaux recyclés. Le recyclage consiste à réutiliser donc des produits usagés pour leur donner une seconde vie. Aujourd'hui, cette journée est également l'occasion de souligner l'importance du tri des déchets pour permettre le recyclage. Voilà, fin de ce flash. C'est tout pour aujourd'hui et on te retrouve Manon tout de suite pour ta chronique ciné et tu vas revenir sur un film mythique de Miyazaki. C'est Le Château ambulant, sorti il y a une dizaine d'années.
Nous allons revenir sur ce film. C'était toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Prévert 105.9. Ciné News, la chronique du 7e art sur Radio Prévert 105.9. Eh bien, nous voilà pour une nouvelle chronique cinéma. Aujourd'hui, celle-ci concernera Le Château ambulant. Le Château ambulant est un film de Hayao Miyazaki. Celui-ci sorti dans les salles le 12 janvier 2005 en France. C'est un métrage qui possède, comme genre, le fantastique, l'animation et la famille. Ce film est japonais et vient des studios Ghibli.
Alors Manon, est-ce que tu peux nous raconter un peu plus l'histoire de ce film, s'il te plaît ?
Eh bien, oui, effectivement, je vais vous raconter un peu plus sur ce film. Alors, pour commencer, Sophie est une jeune fille de 18 ans. Elle travaille tous les jours et s'en pose dans la boutique de chapelier de son défunt père. Ce n'est que lors de ses très rares sorties en ville qu'elle tombe sur un séduisant et aimable magicien. Elle ne sait d'ailleurs pas son identité, qui est celle d'Aoru. Le magicien ayant la mauvaise réputation de séduire des jeunes filles et de prendre leur cœur, elle n'imagine pas qu'elle ait pu tomber sur celui-ci. Suite à leur rapide échange, une vieille sorcière jalouse se méprend sur leur relation et jette un sort à Sophie, la transformant en une femme de 90 ans. D'abord accablée, Sophie décide de s'enfuir de chez elle afin que personne ne découvre sa véritable identité. Elle ne sait cependant pas où aller. Suite à un acte de gentillesse, elle finit par tomber sur le château ambulant de Aoru. Elle y pénètre alors et elle finit par reconnaître le magicien et voit bien que c'est celui qu'elle a rencontré. Il n'a donc pas la mauvaise réputation qu'on lui prête. Sans rien dire, elle veut lui cacher sa véritable identité et se faire engager comme une vieille femme de ménage. Grâce à son dynamisme et son refus d'abandonner, sa vie est au profit de la vieille sorcière jalouse. Sophie vit sa vie avec entrain et redonne ainsi vie à l'ancienne demeure. C'est d'ailleurs grâce à cet entrain et à cette énergie qu'elle permettra de faire avancer les choses et peut-être faire disparaître les malédictions qui planent.
Et maintenant, est-ce que tu peux nous donner ton avis finalement sur le château ambulant ? Qu'est-ce que tu en as pensé ?
Pour commencer, je tiens à dire que je suis une fan du studio Ghibli et des films de Miyazaki. C'est simple, je les ai tous vus. Celui-là n'a donc pas fait exception à la règle. Je vais cependant vous donner un avis construit sur pourquoi ce film d'animation devrait être vu. Tout d'abord, c'est graphiquement un beau film. L'animation est totalement maîtrisée, l'image semble vivre d'elle-même. Le style de dessin est quand même assez simple, mais beau, et certains traits, exagérés de quelques personnages, donnent un véritable côté comique. Je pense par exemple au chien appelé In, qui est quand même assez particulier. Ensuite, l'héroïne, et pas n'importe laquelle donc. Sophie est une héroïne que l'on pourrait qualifier de mouvante. Elle change, elle évolue, et surtout elle surmonte. On découvre au début une jeune fille qui ne s'assume pas, et qui n'arrive pas à faire ses propres choix, et qui en étant frappée par une malédiction, va gagner en confiance et surpasser les situations déplaisantes. C'est évidemment en devenant elle-même, et en assumant ses propres choix, décisions et sentiments, qu'elle rompra son maléfice. C'est cette belle évolution, et bien d'autres choses, qui font que l'on s'attache à cette jeune fille. Après avoir parlé de Sophie, parlons de Haoru. Car oui, sans lui, ce film est totalement différent. C'est à cause de lui et de sa peur que Sophie se retrouve avec une malédiction. Eh oui, c'est sa faute. Toute la magie de ce film vient donc à partir du moment où Haoru apparaît. Au début, on semble voir une belle représentation d'un prince. Vous savez, grand, avec une belle chemise blanche, blonds yeux bleus. Bref, le prince parfait. Qui va petit à petit laisser place à, en réalité, un garçon craintif, peureux et quelque peu égocentrique. C'est à travers Sophie qu'il gagnera en assurance et en courage.
Alors maintenant, j'imagine que tu ne nous as pas parlé de ces deux personnages principaux par hasard.
Évidemment. Je n'ai pas parlé en premier des personnages pour rien, car en réalité, c'est un thème clé du film qui passe à travers eux, la métamorphose. Sophie change son apparence en fonction de son humeur, donc de sa confiance en elle. On la voit un coup vieille, car elle a peur, un autre coup jeune, par exemple quand elle dort, car dans ses rêves, elle assume ses sentiments, ou sa confiance en elle. C'est un véritable bal de transformation. Et Haoru, bah c'est pareil, il a par exemple, dans le film, il a différentes identités de magiciens, Pendragon et Jenkins. Mais également Marco, donc Marco est l'apprenti d'Haoru, et pour apparaître en public, il décide de porter de lui-même un déguisement, le faisant passer pour un vieillard. Dans ce film, chaque personnage cache quelque chose, et le plus innocent peut en réalité cacher autre chose. L'apparence n'est donc qu'une enveloppe. Autre thème abordé est celui de la guerre, une guerre destructrice et violente, enclenchée par simple vengeance et perfidie. C'est simple, c'est l'horreur humaine même. Dernier petit rappel, en fait, ce film est l'adaptation d'un conte de Diane Wynne Jones, appelé Harker's Goon, dont Miyazaki reprend les codes. Je pourrais dire bien d'autres choses par rapport à ce film et dans mon avis, mais ça serait quand même un peu beaucoup trop long. Sur ce, n'hésitez pas à aller le regarder.
Merci Manon pour cette chronique, c'était fortement intéressant. Je pense que beaucoup iront par curiosité voir ce film. On poursuit sur Radio Prévert en musique avec Indochine, Osier et Les Innocents, de très gros succès. On se retrouve donc dans une dizaine de minutes. A tout de suite.
C'était Cine News sur Radio Prévert 105.9.
Bienvenue à Radio Prévert, la radio qui te change d'univers, 105.9.
Embrasser le garçon sur la bouche et puis se mouiller, l'emmener dans le fond du couloir et puis se brûler, être blanc, être pâle, se rechercher la vie, se faire mal, en se disant que juste après, on ne le regrette sûrement.
sans dommage. Il est caché, les corps écartés sans espoir.
Lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen.
Shopping your knife. sens à la chance de voir cet homme ce soir qui rentre un peu moins tard. Ses enfants aiment leur père avec une impatience qui le laissera vieillir juste après leur enfance. Il tourne sur un monde solitaire. Il approche un autre siècle. On se souviendra de ceux qui commettent un crime un jour, de tous ces chasseurs de primes. Et puis d'oublier la vie d'un homme extraordinaire. Oh, oh. Sans l'espoir d'apprendre à leur apprendre à ne pas compter les heures qui s'enroulent et qui meurent, que leur dire viennent sur terre juste pour y répandre un peu d'amour et quelques cendres. On se souviendra.
Retour sur Radio Prévert.
Bienvenue à Radio Prévert, la radio qui te change d'univers. 105.9.
Bon, il y avait un petit jiggle, je m'en excuse, j'avais oublié ce petit détail, mais c'est pas grave, on reprend, c'est du direct. Alors donc, de retour sur Radio Prévert, nous allons donc ouvrir une page histoire et revenir avec toi, Manon, sur la légende française de la bête du Gévaudan. Je rappelle que celle-ci fait parler d'elle depuis des siècles pour ses attaques sanguinaires au nombre de 247 qui ont eu lieu entre 1764 et 1767. Pour information, il y a eu 119 tués, 52 blessés et également 76 personnes qui ont survécu à ces attaques. La quasi-totalité des attaques se sont produites sur des femmes et des enfants. Et maintenant Manon, je te laisse la parole pour nous raconter cette histoire.
Eh bien, c'est parti.
Nom de Zeus, votre rubrique Histoire, mythes et légendes.
Tout d'abord, une première question. Entre légende et réalité, où se trouve la vérité au sujet de cette histoire ? La légende de la bête du Gévaudan. Tout le monde la connaît, mais personne ne la connaît vraiment. On en entend parler, mais savez-vous vous-même quelle était cette bête ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? On parle de mort, mais quoi ? On ne sait pas vraiment. Alors, pour parler de cette histoire, j'ai décidé de prendre pour l'occasion un texte. Un texte de G. Lenôtre, qui est un historien et auteur dramatique français, et qui a écrit bien un texte à propos de cette histoire. Son texte est tiré de Histoires étranges qui sont arrivées, et il date de 1933. Préparez-vous, je vais vous raconter l'histoire de la bête du Gévaudan. Au commencement de juin de l'année 1764, une femme de Langogne, en Gévaudan, gardant son troupeau de bœufs aux environs du bourg, fut attaquée par une bête féroce. Ce sera la première victime recensée. Quelques semaines plus tard, elle recommence ses carnages qui vont en s'amplifiant, tant dans le nombre que dans l'horreur. Tout le Gévaudan en tremblait. Le capitaine Duhamel, aide-major des dragons de Langogne, s'était volontairement mis à la tête d'une troupe de hardis paysans afin de donner la chasse à l'animal mystérieux. Il l'avait même cerné et tué un grand loup qui lui avait valu 18 livres de prime. Mais les gens de la campagne ne se rassuraient point. Ce vulgaire loup n'était pas la bête, ainsi qu'on s'efforçait à leur faire croire. Et, de ce fait, on apprit presque aussitôt que celle-ci se moquait des chasseurs et poursuivait ses ravages. Les gens ne sortaient de chez eux qu'en troupes bien armées. Le capitaine Duhamel et ses dragons opéraient des battues journalières. 1200 paysans, porteurs de fusils, de faux, d'épieux, de bâtons, lui servaient d'escorte. Dès qu'un méfait de la bête était signalé, on se ruait en masse à sa poursuite. Monsieur de Lafont, syndic à Mende, monsieur de Montcamp, commandant général des troupes du Languedoc, un gentilhomme de la région, monsieur de Morangiès, et Mercier, le plus hardi chasseur du Gévaudan, s'était mis en campagne. Il battait le pays de Langogne à Saint-Chély et de Malzieu à Margevol. Des crieurs allaient de village en village pour ameuter les paysans. Les braves se mobilisaient et, par les chemins neigeux, partaient résolument à la recherche du monstre. On savait bien maintenant que la bête n'était pas un loup. Trop de gens l'avaient vue et donnaient d'elle des descriptions concordantes. C'était un animal fantastique, de la taille d'un veau ou d'un âne. Il avait le poil rougeâtre, la tête grosse, assez semblable à celle d'un cochon, la gueule toujours béante, les oreilles courtes et droites, le poitrail blanc et fort large, la queue longue et fournie avec le bout blanc. Certains disaient que ses pieds de derrière étaient garnis de sabots, comme ceux d'un cheval. La bête semblait douée d'une sorte d'ubiquité dénotant d'une agilité surprenante. Dans le même jour, on avait constaté sa présence en des endroits distants, l'un de l'autre, de 7 à 8 lieues. Elle aimait à se dresser sur son derrière et à faire de petites singeries, auquel cas elle paraissait gaie comme une personne et feignait de n'avoir point de méchanceté. Si elle était pressée, elle traversait les rivières en 2 ou 3 sauts, mais quand elle avait le temps, on la voyait marcher sur l'eau sans se mouiller. Quelqu'un assurait l'avoir entendue rire et parler. Le roi Louis XV lui-même, bien qu'il eût d'autres soucis, voulut bien compatir au malheur de ses faits au sujet du Haut-Languedoc, et son ministre donna l'ordre de faire donner la troupe. Conformément à ses instructions, le capitaine Duhamel vint, à la tête de ses dragons, installer son quartier général à Saint-Chély. Il eut un conseil avec les tireurs les plus réputés de la région, messieurs de Saint-Laurent et Lavigne. Puis il fit un plan de campagne qui consistait en 8 battues. Les 8 battues s'effectuèrent, dans l'ordre prescrit, du 20 au 27 novembre. Elles ne donnèrent aucun résultat. La terreur redoubla. L'évêque de Mende consacra un mandement à cette désolation publique, et des oraisons furent ordonnées dans toute l'étendue du diocèse pour qu'il plût à Dieu de susciter un nouveau Saint-Georges assuré d'avance de la vénération de tout le pays. À cette époque, janvier 1765, se place un accident qui met en émoi dans tout le pays. Le 12 janvier, un berger du village de Chanaleil, âgé de 12 ans, et nommé Jacques Portefaix, gardait des bestiaux dans la montagne. Il était accompagné de 4 camarades et de 2 fillettes plus jeunes que lui. Et la bête les attaqua. La bataille fut très éprouvante, mais grâce au courage du jeune Portefaix et à force de lutter à grands coups de bâton, le monstre s'enfuit. Le procès-verbal authentique de cet exploit fut envoyé à monsieur l'évêque de Mende, qui l'adressa au roi. Celui-ci décida que chacun des 7 petits paysans de Chanaleil toucherait 300 livres sur sa cassette, et que le jeune Portefaix serait élevé aux frais de l'État. Il fut placé, quelques mois plus tard, chez les frères de Montpellier. Disons, pour n'y plus y revenir, qu'après de brillantes études, il entra dans l'armée et mourut en 1795, lieutenant d'artillerie coloniale. Mais la bête continuait ses ravages, et son audace semblait croître. Vers le 2 janvier 1765, elle déchira un enfant de 14 ans, Jean Châteauneuf, de la paroisse de Cresse. On célébra pour la victime un service à l'église du village, et le lendemain, au crépuscule, comme le père de Châteauneuf pleurait dans sa cuisine, la bête vint le regarder par la fenêtre. Elle posa ses pieds de devant sur l'appui de la croisée. Châteauneuf aurait pu la saisir par les pattes, mais n'osa pas. Alors une grande chasse fut organisée. Duhamel donna l'ordre à 73 paroisses. 20 000 hommes répondirent à son appel. Le pays était couvert de neige. Il fut facile de relever la piste de la bête et de suivre sa trace. 5 paysans de Malzieu la tirèrent. Elle tomba en poussant un grand cri, mais se releva aussitôt et disparut. Il y avait alors en Normandie un vieux gentilhomme nommé Denneval, dont la réputation de louvetier était grande. Il avait, en son existence, tué, assurait-il, 1200 loups. Les exploits de la bête du Gévaudan troublaient son sommeil. Il entreprit le voyage de Versailles, parfin à se faire présenter au roi Louis XV, offrit ses services, qui furent acceptés. Il jura à sa majesté qu'il tuerait la bête, la rapporterait empaillée à Versailles, afin que tous les seigneurs de la cour fussent témoins de son triomphe. Le roi lui souhaita bonne chance, et Denneval se mit en route. Denneval procéda avec une sage lenteur à ses préparatifs. Il voulait étudier savamment l'insolite gibier qu'il se préparait à chasser. Il explorait prudemment le pays, relevait ça et là les passés du fauve, et constatait que chacun de ses bonds avait, en terrain plat, une longueur de 28 pieds. Il en concluait que « cette bête n'est nullement facile à voir ». D'ailleurs, ses chiens étaient restés en route, il lui fallait les attendre avant de se mettre en chasse. Et puis, il ne voulait pas de rival. Il fit comprendre qu'il ne tenterait rien si Duhamel et ses dragons ne se retiraient. Discussion, intrigue à ce sujet, le temps passait, et ce fut un beau temps pour la bête. Elle se montrait journellement et ne se privait de rien. La liste de ses carnages est terrifiante. Louis XV donna finalement l'ordre à son premier porte-arquebuse, M. Antoine de Beauterne, de se rendre immédiatement en Gévaudan et de lui rapporter à Versailles la dépouille du monstre. Cette fois, on fut rassuré, la bête allait périr, puisque tel était l'ordre de sa majesté. Antoine, son fils, ses domestiques, ses gardes, ses valets, ses limiers, arrivèrent à Saugues le 22 juin. Monsieur le porte-arquebuse commença par congédier Denneval, mais la bête lui porta un défi. Le 4 juillet, en plein midi, elle enleva une vieille femme, Marguerite Oustalier, qui filait la quenouille dans un champ voisin de Broussolles, et la laissa morte après lui avoir arraché la peau du visage. Ce fut bien une surprise quand, après 3 mois de tâtonnements et de ripailles, et comme par hasard, on vit partir M. Antoine, avec tout son équipage, pour une partie de l'Auvergne où la présence de la bête n'avait jamais été signalée. Il alla jusqu'au bois de l'abbaye de Chaze, où les loups étaient nombreux. Le 21 septembre, il se trouvait là, à l'affût, quand il vit venir à lui un animal de forte taille, la gueule ouverte et les yeux en sang. Nul doute, c'était la bête. Antoine tira, la bête tomba. Elle avait reçu la balle dans l'œil droit. Elle se releva pourtant, mais une seconde balle l'atteignit en plein corps. Elle roula, raide morte. La bête était donc bien officiellement morte, et l'on n'y pensa plus. Mais on la revit. Elle avait, en effet, repris ses courses vagabondes, et à compter du 1er janvier 1766, elle se montra tous les jours. Il y eut des faits extraordinairement tragiques. 2 petites filles de lèbres jouaient devant la maison de leurs parents, quand la bête, survenant, se jeta sur une d'entre elles et la saisit dans ses crocs. L'autre fillette, espérant défendre sa sœur, sauta sur le dos du monstre, s'y cramponna et se laissa emporter. Un paysan, Pierre Blanc, lutta un jour avec la bête durant 3 heures consécutives. Quand ils étaient trop essoufflés, lui et elle se reposaient un peu, puis ils reprenaient le combat. Pierre Blanc la vit de près. Il affirma qu'elle se plantait sur ses pattes de derrière pour mieux allonger les coups de griffe et qu'elle paraissait toute boutonnée sous le ventre. Le Gévaudan suppliait qu'on lui vînt en aide, mais ses lamentations restaient sans écho. Monsieur Antoine l'avait tué, voilà qu'il était définitif, il n'avait plus rien, plus à y revenir. Et toujours, toujours, la bête mangeait le monde. Le 19 juin 1767, après un grand pèlerinage à Notre-Dame des Tours, où toutes les paroisses du pays se rendirent, le marquis d'Abché, l'un des seigneurs du Gévaudan, organisa une battue. Au nombre des chasseurs se trouvait un rude homme, du nom de Jean Chastel. Il avait 60 ans, étant né vers le commencement du siècle, à Darmes, près de la Bessère-Sainte-Marie. C'était un gars robuste et pieux, que toute la région estimait pour son honnêteté scrupuleuse et sa bonne conduite. Jean Chastel se trouvait donc ce jour-là posté sur la Sogne d'Auvers, près de Saugues, quand il vit venir à lui la bête, la vraie. La bête ne bouge pas, elle attend. Chastel épaule, vise, tire. La bête reste immobile. Les chiens courent au bruit du coup de feu, la renversent, la déchirent. Elle est morte. Son corps, chargé sur un cheval, est aussitôt porté au château de Besque. Là, on l'examine, et c'est bien la bête, ce n'est pas un loup. On promena la dépouille de la bête dans tout le pays, puis on la mit dans une caisse, et Jean Chastel partit pour Versailles. Par malheur, le voyage s'effectua par les chaleurs d'août. À l'arrivée, la bête était dans un tel état de putréfaction qu'on se hâta de l'enterrer sans que quiconque eût le courage de l'examiner. De sorte qu'on ne saura jamais ce qu'était la bête du Gévaudan. Chastel, cependant, fut présenté au roi qui se moqua de lui. Chastel revint au pays, où le receveur d'État lui compta, pour toute gratification, 72 livres. De récentes recherches historiques laisseraient penser que Jean Chastel ne soit jamais monté à Paris, mais que ce soit une autre personne qui ait fait le voyage. Mais le Gévaudan fut moins gras que Versailles. Jean Chastel en devint le héros. Son nom, après un siècle et demi, y est connu de tous. Un écrivain local lui consacra un poème épique qui ne compta pas moins de 360 pages et dont l'élaboration dura 20 ans. La mort du monstre y est pittoresquement contée et on y voit le hardi chasseur. Stéphane va nous lire le petit passage du poème où la bête meurt.
Ajustant son fusil, le coup part et la bête vomit des flots de sang. Certain de sa conquête, voyant que tout effort, tout cri sont superflus, Chastel s'écrie « Bête, tu n'en mangeras plus ».
À la Sogne d'Auvers, est-il nécessaire de l'ajouter, certains assurent qu'au lieu même où était tuée la bête, l'herbe ne vint plus, pas plus haute une saison que l'autre. Elle y est d'ailleurs toujours rougeâtre, et aucun animal ne consent à brouter ce gazon maudit. C'était l'histoire de la bête du Gévaudan. Je rappelle qu'à cette époque, les seigneurs, donc beaucoup de nobles, aimaient bien faire venir des pays exotiques des animaux. Donc, il n'était pas rare qu'ils fassent, par exemple, ils ont déjà fait venir des hyènes ou ce genre d'animal. Donc, il est probable que ce soit une bête comme celle-ci. Sauf qu'on ne le saura probablement jamais réellement quel était cet animal. Nous allons maintenant passer à un autre sujet et à la chronique média. C'était tout sur l'histoire de la mythique bête du Gévaudan, qui fait donc parler d'elle depuis des centaines d'années. On retrouve maintenant Stéphane. Tu vas nous parler médias et d'un sujet d'actualité. C'était la diffusion la semaine dernière sur France 3 d'une fiction concernant le viol, il me semble.
Oui, tout à fait, Manon.
C'était Nom de Zeus sur Radio Prévert 105.9.
Et oui, Manon, on va évoquer aujourd'hui dans cette chronique média un sujet assez lourd mais d'actualité. Mardi dernier, France 3 diffusait La Consolation, un téléfilm qui a été adapté du livre autobiographique de l'animatrice de télé et de radio, Flavie Flamand. Le film revient sur l'agression sexuelle qu'elle a subie alors qu'elle était âgée de 13 ans. Media News, la gazette consacrée à la télé, à la radio et à la presse écrite. Depuis plusieurs semaines, vous n'avez pas pu échapper à la vague médiatique qui intervient autour des agressions sexuelles subies par les femmes et par les hommes également, il faut le noter. À l'origine de cette prise de conscience, les accusations de viol et de harcèlement à l'encontre d'un producteur américain très connu dans le milieu du cinéma et du 7e art plus précisément. Le hashtag « Balance ton porc » a été rapidement relayé sur les réseaux sociaux, incitant à dénoncer son violeur. Depuis, c'est des dizaines de personnalités qui sont dénoncées pour leur acte odieux. Tourné au printemps dernier, c'est à la suite d'un concours de circonstances que le téléfilm « La Consolation » a été diffusé à la télévision. Il intervient alors en pleine crise concernant les affaires d'agression sexuelle. La fiction, réalisée par Magali Richard Serrano, reprend le récit de Flavie Flamand. En 2016, l'animatrice publiait La Consolation, où elle révélait alors avoir été violée à l'adolescence par un photographe mondialement connu et reconnu dans le métier. Elle y raconte le traumatisme qu'elle a vécu et comment celui-ci a-t-il été refoulé. Ce n'est que seulement très tard, trop tard, que tout remonta à la surface.
L'audace de France 3 cette semaine. Mardi, il y a des drames dont France 3 ose parler.
Souris.
D'après l'autobiographie de Flavie Flamand.
T'es grosse, t'es moche, j'ai honte de me trimballer un boudin comme toi.
Drôle de temps pour des vacances.
Excusez-moi, en fait je suis avec David Hamilton. Il a repéré vos filles et il voudrait faire des essais avec elles.
Des vacances qui devaient être le temps de l'insouciance.
Tu crois que ça va durer encore longtemps?
Quoi? Bah, t'es pas contente? Quand on prend un engagement, on va jusqu'au bout.
Le temps n'effacera jamais les blessures. Inédit, mardi à 20h55, La Consolation, suivie d'un débat animé par Carole Gessler, avec la présence exceptionnelle de Flavie Flamand. France 3, toute la place pour se parler.
La fiction retrace trait pour trait au récit de Flavie Flamand, comme elle le soulignait la semaine dernière au Figaro. Le téléfilm s'ouvre sur une Flavie Flamand à l'âge adulte, au sommet de sa carrière, mais des crises de panique qui lui gâchent la vie l'amènent à consulter un psychothérapeute pour comprendre son mal-être. Rapidement, le médecin vient à évoquer son enfance avec un album photo qu'elle s'était procuré pour une consultation. C'est alors qu'un cliché réalisé par David Hamilton en 1970, lors d'un séjour au Cap d'Agde, va faire remonter tous ses souvenirs et surtout le viol qu'elle a subi. On comprend alors que Flavie Flamand a fait face à une amnésie traumatique.
Pour la prochaine séance, vous pouvez m'apporter des photos de vous, enfant.
Franchement, je vois pas trop à quoi ça va servir.
Peut-être à identifier d'où viennent vos flashs. En début de séance, vous m'avez dit que vous n'aviez que des souvenirs fugaces de votre enfance.
Ah, parce que j'ai eu une enfance tout ce qu'il y a de plus normal. Il n'y a pas grand-chose à se souvenir.
Vous avez entendu parler de l'amnésie traumatique?
Non.
Le cerveau humain est étonnant, vous savez, il vous protège. Il peut enfouir certains souvenirs lorsque votre survie psychique est en danger. Mais ces traumas sont toujours là, bien cachés au tréfonds. Et ils continuent leur travail de sape invisible.
La fiction est construite à la manière d'une session de consultation afin de trouver le problème dont est victime la patiente. Ainsi, les téléspectateurs suivent et avancent dans l'histoire jusqu'au moment fatidique, l'agression sexuelle, qui ne sera présente à l'antenne qu'à la toute fin. C'est ainsi qu'avant d'atteindre ce point, on retrouve une Flavie qui essaye de savoir quelles sont les raisons de son état. On la suit dans le cadre familial, qui n'est pas des plus joyeux. Elle est confrontée à une mère tyrannique, froide et insultante, et qui la rabaisse sans cesse, interprétée par Léa Drucker.
Je suis prête!
Est-ce que tu crois que je vais t'emmener à Kodak avec moi?
Bah oui!
Bah non. Ça t'aidera peut-être à réfléchir.
Mais j'ai réfléchi, maman. Je vais faire plus attention, s'il te plaît.
Non, Flavie. T'es grosse, t'es moche. Tu finiras caissière, de toute façon. J'ai honte de me trimballer un boudin comme toi. T'as qu'à rester dans ta chambre, c'est là que tu seras le mieux.
Cette dernière vit ses rêves de célébrité à travers sa fille, qu'elle surnomme Poupette. Une relation presque amicale et malsaine se développe entre les deux personnages, ce qui n'est pas de bon augure, puisque la mère va pousser Flavie dans le lit de star, espérant atteindre son but. À travers le film et le livre, Flavie Flamand et Émilie Dequesne, l'actrice qui l'interprète à l'écran, en appelle à une prise de conscience. Ce film est un combat, comme cette dernière le souligne lors d'un entretien avec les médias. En effet, elle dénonce toutes deux la durée de prescription. Aujourd'hui, les victimes de viol ne peuvent porter plainte contre leur agresseur que jusqu'à leurs 38 ans. Elle suggère alors d'étendre ce délai jusqu'à l'âge de 48 ans. Si par malheur, une victime dénonçait son violeur, elle pourrait être condamné pour de la diffamation. C'est pourquoi Flavie Flamand n'avait pu révéler le nom de son prédateur. Ce n'est que lors d'une interview chez Thierry Ardisson, dans son émission « Salut les terriens » sur C8, que ce dernier a révélé l'identité. L'homme en question s'est suicidé en novembre 2016.
Ce coupable, pourquoi vous ne donnez pas son nom?
Je ne peux pas donner son nom parce que j'ai aujourd'hui 42 ans et que j'avais, selon la loi française, jusqu'à l'âge de 38 ans pour pouvoir me retourner contre mon bourreau.
Est-ce que je peux donner son nom?
C'est à vous de voir, Thierry.
Il a aujourd'hui 83 ans. Je ne sais pas s'il regarde la télé, mais t'es un bel.
Alors il faut tout de même noter que France Télévisions, en diffusant l'histoire de Flavie Flamand à l'écran, évoque un sujet de société important et digne du service public. La diffusion a connu un carton d'audience, c'est plus de 4 millions de téléspectateurs qui ont regardé le téléfilm. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, une femme sur deux aurait déjà été victime d'agressions sexuelles ou de harcèlement au cours de sa vie. Je vous donne également un rendez-vous, c'est ce soir sur France 5 à 20h50. Vous pourrez retrouver le documentaire « Viol sur mineur » co-réalisé par Flavie Flamand et Karine Dufour. Le programme donne la parole à plusieurs victimes, l'occasion d'approfondir une nouvelle fois le sujet. Voilà, on arrive au terme de cette chronique et on poursuit maintenant beaucoup plus légèrement, je vous rassure, en musique. On retrouve le Roi Soleil, Sia et Mylène Farmer sur Radio Prévert. A tout de suite. C'était Media News sur Radio Prévert 105.9. Bienvenue à Radio Prévert, la radio qui te change d'univers, 105.9.
On a le vice des vertus, ce qu'on mérite rien de plus, qui brille, scintille, qui se voit, etc. En rajoutant et plus, sans mesure au superflu, de chic, de luxe et d'éclat, etc. Et pour la galerie, tout pour la galerie, on ne trouve ici rien à sa taille. Oh, oh, pour la galerie, tout pour la galerie, puisque l'important n'est qu'un détail. Et vice-versa. S'est jamais perdu dans l'excès de m'as-tu vu et plaire comme plaire à tout va, etc. Pour la galerie, tout pour la galerie, on ne trouve ici rien à sa taille, puisqu'on vit pour la galerie, que pour la galerie, puisque l'important n'est qu'un détail. Sans bien à qui ça veut, à l'image de soi-même, si c'est pour son bien, on le fait quand même. On fait tout pour la galerie, tout pour la galerie, on ne trouve ici rien à sa taille, puisqu'on vit pour Versailles. On a le vice des vertus, on se rajoute toujours plus de chic, de luxe et d'éclat, etc. Pour la galerie, tout pour la galerie, on ne trouve ici rien à sa taille, puisqu'on vit pour la galerie, que pour la galerie, puisque l'important n'est qu'un détail. Pour la galerie, on ne trouve ici rien à sa taille, puisqu'on vit pour la galerie, puisque l'important n'est qu'un détail, et vice-versa.
So go in the fast lane. No time for love, no time for hate, no drama, no time for games. So go, who's so like no home on my own. Check my phone, nothing to
make white room in my makeup. Why show?
Breaking
Bienvenue à Radio Prévert, la radio qui te change d'univers, 105.9. De retour sur Radio Prévert dans la matinale, et on va passer maintenant à une page littérature avec Manon et Aurore qui vont nous parler d'un roman, d'un livre nommé Les Derniers Géants. C'est à vous. Quoi de neuf au CDI ? La chronique littéraire d'Aurore Crane sur Radio Prévert 105.9.
Eh bien, bienvenue.
Merci.
Nous nous retrouvons encore une fois.
Eh ouais, encore une fois. Je suis de retour, de bonne humeur et en grande joie de vous présenter un super album qui a été fait par François Place, qui est à la fois dessinateur, illustrateur et à la fois écrivain. Et cet album s'appelle Les Derniers Géants. Ouais. C'est un conte.
Bah, quand on voit la couverture déjà, on y voit les dessins un peu... comment dire ça ? Enfin, que les enfants arrivent facilement à voir ce que c'est.
Oui, oui, c'est fait à partir d'aquarelles, donc les traits sont très doux, les illustrations sont superbes et le texte est vraiment beau également, et l'histoire est super dense. Alors, je vais vous la... Bah tiens, en parlant de l'histoire, je vais vous la raconter un petit peu. C'est une espèce de scientifique raté qui vit en Europe et qui, par hasard, un jour, en se baladant sur le port, achète ce qu'il prend d'abord pour une dent d'animal et qui est, en fait, qu'on lui dit être une dent de géant.
Mmh.
Donc ça l'intrigue énormément en tant que scientifique, et il faut savoir que le personnage est quelqu'un qui court un peu après la reconnaissance de ses pairs, qui voudrait la gloire, et donc il dit tiens, quelque chose à explorer, quelque chose à découvrir, un terrain vierge, nouvelles aventures, etc. Et donc il fait sa valise, il prépare ses malles, il monte une expédition, et il va donc chercher ces derniers géants aux environs de l'Inde. Alors, l'expédition est un échec, il se fait attaquer par des tribus, enfin bref, il y a plein de péripéties, avant qu'il soit recueilli par ce peuple des géants, qui s'avère être un peuple extrêmement pacifique, donc très peu nombreux, extrêmement pacifique, dans lequel il n'y a aucune hiérarchie, dans lequel les gens vivent en harmonie, qui communiquent uniquement par des chants plutôt que par des mots, et qui a le corps revêtu d'énormes tatouages qui est censé raconter l'histoire à la fois du peuple et de la personne qui porte les tatouages. Donc il est baigné dans cette culture où il va rester quelque temps, il va comprendre, apprendre à vivre parmi les géants qui sont très très bienveillants vis-à-vis de lui. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il va s'ennuyer. À s'ennuyer parce que c'est trop calme, quoi, il y a aucun conflit, ils s'entendent bien, c'est l'harmonie totale, et donc il va se faire chier en gros, et il décide de rentrer au pays, et avant de partir il se fait offrir par les géants une grosse quantité d'or, puisque la terre des géants est recouverte d'or, comporte un grand gisement aurifère. Et donc, eux, ils ont aucune idée de la valeur hein, que ça peut représenter. Pour eux, c'est des cailloux. Donc, il part avec cet or. Il revient en Europe. Il revient avec un carnet de voyage, avec des preuves, avec l'or. Il publie donc son récit de voyage chez les géants. Il connaît un succès assez contrasté, en fait, dans la communauté scientifique. Certains le traitent de charlatan. D'autres adhèrent à fond à son histoire, à sa découverte. Il a la gloire qu'il cherchait, et il oublie un petit peu le monde des géants jusqu'au jour où il est invité à une espèce de commémoration de la découverte des géants, un peu en guest. Alors il y va, et en fait il s'aperçoit que les informations qu'il a publiées ont été utilisées par des industriels pour aller chercher l'or qui est sur la terre des géants, et les géants ont tous été exterminés. Voilà. Alors c'est un album, donc mm-hmm. Un album, généralement on pense que c'est fait pour les enfants, sauf que là le texte est quand même assez compliqué. Vous avez compris que dans l'histoire il y a des enjeux qui sont assez forts. Et les dessins, bien que faits à l'aquarelle, sont pas du tout naïfs, en fait. Et c'est donc un récit de voyage De ce personnage qui s'appelle, je sais plus, il a un nom à coucher dehors. Attendez.
La petite précision.
De ce personnage, dans sa quête de gloire, dans sa quête de découverte, il est pas méchant pour un sou, hein, mais de par sa cupidité, il va en fait amener le malheur sur un peuple qui n'a été que gentillesse et bienveillance pour lui. Voilà, il s'appelle Archibald Léopold Ruthmore.
Alors nous présentons nos excuses aux Archibald Léopold Ruthmore tout à l'heure pour le voilà. Nom à coucher d'or.
Archibald Léopold, si tu m'écoutes, je te présente mes excuses. Donc l'histoire, elle se déroule au 19e siècle, en 1849, donc... Voilà, c'est en fait la période des grandes découvertes, de l'ère industrielle, etc. Et c'est la période aussi de la colonisation.
Ouais, donc ils y ont mis... Enfin, l'auteur y a mis en rapport. C'est vrai qu'éloquent, enfin, à avoir entendu ton résumé, la fin de l'histoire est quand même, on va dire, assez trash, entre guillemets, pour mm-hmm. des enfants. Enfin, les enfants maintenant ne sont plus habitués à des fins qui soient assez violentes.
Ah oui, tu crois, toi, que les enfants sont peu habitués à la violence?
Non, mais je veux dire aux contes, quand on parle des contes. Parce que
ah, bah attends, les contes, c'est hyper violent.
Non, mais quand on voit la vraie version, ouais. Là, c'est plus édulcoré que tout ce qui est Disney, ouais. Etc. Ils ont vraiment édulcoré pour que ça finisse bien. Alors que, par exemple, on sait très bien que, par exemple, La Belle au bois dormant, alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est en réalité fait violer. Voilà, donc c'est beaucoup moins gentil que la version Disney, tout oui. De suite. Hein. Donc,
La petite sirène, c'est pareil, hein, ça se termine quand même assez mal, l'affaire.
Bah, elle finit morte.
Voilà, elle finit morte quand même. Donc c'est ça. Dans une autre version, elle tue le prince. Enfin bon, bref, de toute façon, c'est très trash. Hein.
Ben, les morales à l'époque étaient beaucoup plus. Enfin, elles étaient quand même assez différentes de maintenant, en fait.
Ben, les contes, c'est avant tout des messages de sagesse populaire pour mettre en garde, notamment les jeunes filles. C'est pour ça que c'est souvent les princesses qui font les frais. Contre le loup. Donc,
le grand méchant loup.
Il y a un livre qui est très intéressant à ce propos, c'est Psychanalyse des contes de fées. Mmh. Qui est souvent étudié en lettres et qui est souvent étudié aussi en sociologie, qui présente justement une analyse sociologique des contes classiques, quoi, Andersen, les contes de Grimm, etc. Et on s'aperçoit qu'en fait, c'est souvent des messages de prévention pour les jeunes filles par rapport aux hommes. Bah. Les messages qui sont derrière.
Bah ça, c'est vrai que les morales sont plus... C'est en fait, ça a changé par rapport à maintenant. D'ailleurs, en parlant de morale, mm-hmm. que, selon toi, du coup, quelle est la morale, la morale globale de ce conte?
Alors, moi, j'y vois plusieurs thématiques. Déjà, il y a le thème de la colonisation qui est vraiment très présent, puisque... il y a derrière l'envie de découverte scientifique... comme ça a pu être le cas, par exemple, pour Christophe Colomb. Enfin, comme on nous a enseigné que c'était le cas pour Christophe Colomb, pour les Marco Polo, les grands explorateurs, d'élargir les horizons, de découvrir le monde, etc., il y a toujours des intérêts financiers, en fait. Donc, et la colonisation, on sait très bien que enfin, maintenant, on le sait, avec tous les devoirs de mémoire qui ont été faits, etc., qu'il y a caché derrière une volonté... d'apporter, entre guillemets, la civilisation et la bonne parole religieuse au peuple, plutôt le but de piller les richesses que possède le peuple. Et là, c'est le cas, en fait, dans le livre. Donc là, on peut vraiment faire un parallèle avec la colonisation. Il y a aussi le thème de la cupidité, de l'intérêt personnel, par rapport à... en opposition, en fait, avec un intérêt qui serait collectif, c'est-à-dire l'égoïsme de Archibald de Léopold Ruthmore, qui est mis en comparaison avec la belle harmonie qui règne dans le village, dans le peuple des géants, qui finalement forme une communauté dont les individus n'essayent pas de s'écraser les uns les autres. Donc voilà, il y a ces thèmes-là qui sont présents. On a aussi le thème de l'exploration, du voyage... De l'étrange, de l'étranger, de la confrontation avec de nouvelles cultures, de la confrontation avec l'autre, en fait, avec l'étrange. Donc c'est très riche, le texte est vraiment très riche. François Place dessine très bien, écrit très bien. Il développe là, dans les derniers géants, des thèmes qui lui sont chers, puisqu'il a écrit d'autres livres qui sont des carnets de voyage, notamment Atlas des géographes. Qui est un album épais comme ça, alors vous voyez pas, mais c'est des gros pavés en plusieurs volumes dans lequel en fait il retrace avec toujours des éléments de merveilleux et d'imaginaire les différents pays du monde, quoi. C'est une exploration des différents pays du monde. Voilà, alors moi c'est un album que j'ai beaucoup aimé, que j'ai découvert et qui est au programme de 5e. Voilà, dont les textes sont au programme de 5e. On le trouve dans les élèves de Prévert trouvent un passage dans leur manuel scolaire. Et donc, pour les élèves de 5e qui nous écoutent, vous allez être mangés à la sauce des derniers géants, puisque nous allons l'étudier en long et en large et en travers. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ce joli album? Oui, François Place. Ah oui, j'ai pas donné la date de parution. Alors c'est chez Casterman, les éditions Casterman, qui font des très jolis albums, des albums qui sont pas dans un format classique généralement. Donc là, c'est le cas pour celui-là parce qu'il est pas en format A4 classique. Il est tout en long. C'est des jolies planches. Et François Place va faire paraître bientôt, là, je pense au mois de janvier, un nouvel album qui reprendra un petit peu. Le thème de celui-là. Alors, c'est chez Casterman en 2008. Voilà, Les Derniers Géants. De François Place. Voilà. Des questions?
Le livre, allez voir.
Alors, on mettra peut-être la couverture. La jaquette, c'est pour les CD. La couverture du livre en première page de...
Oui, on la mettra sur Facebook.
Sur Facebook.
Que les gens puissent voir à quoi ça ressemble.
Voilà, parce que dans un album, ce qui est intéressant aussi, c'est les dessins, quoi, au-delà de l'histoire.
Ah bah, c'est vrai que les dessins sont très jolis. Puis le thème des géants, enfin, dans beaucoup de cultures, les géants sont attachés dans la culture, enfin, dans les livres aussi, en fait.
Dans énormément de cultures, ouais, j'ai fait des recherches justement. Du coup, ça m'a un petit peu, j'ai un petit peu creusé le sujet, et dans énormément de cultures, on a présence des géants. Dans notre culture judéo-chrétienne, il y a une histoire de géants dans la Bible. Il y a David et Goliath, déjà.
Bah, oui.
Et puis, dans la mythologie grecque, dans la mythologie
nordique,
dans la mythologie aussi des Amérindiens, amérindiennes, dans la mythologie des Amérindiens du Nord, puis des Amérindiens du Sud aussi.
Les Indiens.
Voilà. Les minces. Aidez-moi. Ceux qui étaient au Mexique, tout ça, les Mayas, voilà.
Ah.
Merci. Les Mayas, les Incas, enfin dans tout, en fait dans la mythologie mésopotamienne aussi. Enfin bref, aussi loin qu'on recule et dans toutes les cultures, il y a présence des géants. Donc c'est un thème assez récurrent.
Après, ce qui sera très intéressant, c'est de voir pourquoi en fait chaque culture, indépendamment de, enfin c'est marrant parce que dans tout le globe, dans tous les pays, il y a cette histoire de géants, mais comment toutes ces tribus différentes qui ne se sont jamais vues en sont venues à avoir la même idée d'un homme très grand qui serait un géant, quoi. Enfin...
Alors j'ai trouvé des théories un petit peu farfelues sur Internet. Donc les géants seraient un peuple extraterrestre qui aurait visité la Terre à une certaine époque et donc laissé dans les mémoires l'idée de quelqu'un de plus grand. Il y a l'idée évolutionniste aussi, comme quoi nous descendons de géants et la race en dégénérant, en fait, la race humaine en dégénérant serait devenue plus petite. Il y a eu pas mal de canulars aussi, c'était très à la mode les géants au début du fin 19e, début du 20e siècle. Alors il y avait des sépultures de géants qui étaient découvertes. Des hommes de 3 mètres, des ossements de 3 mètres de long, etc. Mais bon, la plupart, c'était des canulars et des fakes. Voilà, c'est quelque chose qui habite l'imaginaire, en fait, des peuples, les géants. Et d'ailleurs, petite anecdote, lorsque Magellan a posé pour la première fois le pied sur le sol américain, il aurait, alors dans les récits de voyage de Magellan, il aurait rencontré, la première personne qu'il aurait rencontrée est une personne qui mesurait plus de 3 mètres de haut, donc un géant. Il aurait, alors ça c'est plutôt, ça c'est pour la légende, il aurait donc découvert un peuple de géants, capturé deux d'entre eux, donc c'était des gens qui étaient très placides, pas du tout agressifs, il aurait capturé deux d'entre eux et tenté de les ramener en Europe. Et comme de par hasard, l'un d'entre eux serait mort, se serait laissé mourir de faim à bord, et un autre aurait réussi à se suicider. Enfin bref, ils n'ont jamais réussi à ramener les corps en Europe. Mais il y a cette légende-là des géants de Patagonie. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça.
Non, j'avouerais que j'en ai jamais entendu parler, personnellement.
Voilà, donc est-ce que c'est quelque chose que l'équipage de Magellan... On ne sait pas, parce que Magellan est mort, en fait, durant le voyage. Donc est-ce quelque chose que l'équipage de Magellan se racontait pour se faire mousser? Ou est-ce qu'ils ont réellement rencontré un peuple plus grand, ce qui, pourquoi pas, hein, après tout, ça pourrait s'expliquer aussi par la taille du continent. La Patagonie, c'est quand même des vastes étendues. Et donc, sur les terres de Patagonie, il aurait été aussi retrouvé des empreintes de pas géantes, et ce qui a donné naissance aussi à la légende du Bigfoot. Voilà. Et je me suis bien amusée, j'ai fait plein de recherches sur les géants, hein.
Ah, ça titille en même temps. La curiosité, elle est...
Ah oui, et puis moi, je suis très, très, très curieuse. Voilà. Ouais, ça... Donc, tout ça pour dire que... de toute façon, les élèves de 5e vont le lire, hein, c'est obligatoire. Mais les autres peuvent aussi venir feuilleter cet excellent album au CDI. Ils apprendront plein de choses. Puis, ils voyageront aussi dans leur imaginaire, ce qui peut être un belle aventure, un beau voyage.
Ça, et une belle occasion de se cultiver aussi au passage.
Voilà. Et s'ils ont envie de me poser des questions sur les gens, je suis calée, ils peuvent venir, Madame Tran est prête. Hein.
De toute façon,
je suis taquée.
Vu qu'ils apparaissent partout dans la littérature, je citerai rien qu'Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux, ils ont peut-être déjà entendu parler.
Je vois de quel genre de littérature tu es friande d'après tes exemples.
J'aime le fantastique, mais je lis beaucoup d'autres choses. Mais bon, les géants, en général, c'est plutôt dans le fantastique qu'on les croise. Donc,
oui, ou dans les contes, ouais, effectivement.
Ou dans les contes. Mm. Donc, c'est un peu difficile dans un thriller policier de voir un géant apparaître d'un coup. Bon, à part si c'est pour décrire une personne très grande d'1m80 ou 90, mais sinon... Donc, à voir.
Allez, voilà.
À voir.
Je vous souhaite une bonne journée à l'écoute de Radio Prévert. Et je vous dis la semaine prochaine pour de nouvelles aventures livresques.
Merci à toi.
De rien. Au revoir.
Au revoir.
C'était Quoi de neuf au CDI sur Radio Prévert 105.9.
Le saviez-vous ? Les anecdotes les plus insolites et tout ce que vous ne saviez pas, c'est maintenant sur votre fréquence.
Manon, on continue donc avec toi. Halloween, c'était il y a quelques semaines, et tu vas nous parler d'une tradition qui met en avant les navets. Oui, les navets, c'est bien ça. Alors, c'est un peu bizarre dit comme ça, dis-nous tout.
Bon, alors, je m'excuse si vous entendez du bruit à l'arrière. N'oublions pas, nous sommes dans un collège. Alors déjà, je vais commencer par expliquer le nom d'Halloween. Alors, Halloween vient de l'anglais All Hallows Even, qui signifie The Eve of All Saints Day, en anglais, contemporain. Il peut se traduire par comme la veille de tous les saints. Donc déjà, il y a un petit rapport religieux. Halloween serait l'héritage d'une fête païenne appelée Samhain, qui était célébrée au début de l'automne par les Celtes, et qui constituait pour eux une sorte de fête du Nouvel An. Donc on n'est plus trop dans le même genre de fête, on va dire. Donc là, on va plutôt revenir à nos navets. Alors pourquoi des navets ? L'ancienne tradition revenait à laisser une bougie au cœur d'un navet. Eh oui, la citrouille, vous l'oubliez. À la base, c'était dans un navet. Ou bien une betterave. En fait, ces navets et ces betteraves avec des bougies à l'intérieur devaient indiquer le chemin des morts. Donc voilà, oui, ça indiquait le chemin des morts. Donc normalement, vous mettiez des navets avec des bougies jusqu'aux tombes et ça indiquait aux morts le chemin à emprunter. Dans les pays celtiques, qui sont situés très au nord de l'Europe, les fruits et légumes ne poussent pas de la même manière que par chez nous. Ils poussent plutôt sous terre, quoi, les conditions météorologiques étant beaucoup plus extrêmes. Donc, c'est pas la même chose. Alors que par exemple, par chez nous, ou aux États-Unis, on a des légumes qui poussent en dehors de la terre, comme, je vous le donne en mille, la citrouille. Bon, la citrouille, ça vient plutôt des États-Unis. Je ne vous le cache pas. D'ailleurs, la citrouille est d'ailleurs une tradition venue tout droit des USA. Et il a totalement remplacé le navet. Bon, en même temps, c'est comme avec une citrouille, ça fait beaucoup quand même beaucoup plus peur quand on la voit avec une bougie qu'un navet. Ceci est beaucoup plus large, c'est plus facile à creuser, et on peut placer une bougie à l'intérieur sans risque de brûlure. Et aussi, on avoue que la citrouille a quand même bien meilleur goût à manger que le navet. Enfin, après, c'est chacun son goût, hein. Donc voilà, vous savez maintenant l'origine d'Halloween, du coup, et d'une histoire de navet. Merci d'avoir écouté cette chronique.
C'était Le Saviez-vous sur Radio Prévert 105.9.
Voilà, on arrive donc au terme de cette matinale. Merci Manon.
Merci Stéphane.
On se retrouve donc Manon la semaine prochaine dès mercredi.
Exactement.
9h50 sur Radio Prévert 105.9 pour une nouvelle matinale.
Dans la bonne humeur.
Et dans la joie.
On espère.
On espère. Et sans trop de problèmes. Et donc, on vous donne donc rendez-vous mercredi prochain, 9h50 sur Radio Prévert. On vous souhaite une très bonne fin de semaine à tous et à mercredi prochain.
Good morning, Radio Prévert.
Good morning.
Good morning.
Good morning.
Yeah, good morning.
Whoa, good morning. And
good morning, Radio Prévert.